Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute. Qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Nous avons 30 minutes pour faire notamment le tour de ce qui va arriver pendant cet été, des certains films que tu as pu voir, Manu.
Eh bien, certains films qui vont sortir donc tout le long du mois de juillet, avec beaucoup de films asiatiques.
Et puis moi, je vous parlerai eh bien des gros films qui sont attendus durant l'été. Je vous parlerai aussi de Sans un bruit, qui est sorti au tout début de l'été. Et quant à toi, Guillaume, tu as un dessin animé un peu particulier.
Ben oui, alors je suis aussi dans un film asiatique, hein, et c'est Pompo the Cinéphile.
Et quant à toi, Sophia, tu nous proposes une comédie.
Eh oui, une comédie française avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.
C'est Cinérama, nous débutons avec Sans un bruit. Que s'est-il passé avant les deux segments de Sans un bruit, condamnant les humains au silence? On en apprend davantage.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Sans un bruit, jour 1 qui est sorti en cette fin juin n'est pas une suite mais un préquel. C'est le même principe que Mad Max Furiosa. On voit dans ce film ce qui a causé le monde décrit dans Sans un bruit 1 et 2 sortis respectivement en 2018 et 2021. Deux films de série B portés par un scénario convaincant, une réalisation avantageuse et une Emily Blunt parfaitement à l'aise. Mais attention, alors là tout change. Il y a d'abord le réalisateur qui n'est plus John Krasinski qui reste tout de même au scénario et à la production. Alors si un temps Jeff Nichols s'était pressenti, bien les deux hommes ne se sont pas entendus. C'est donc Michael Sarnowski qui a fait Pig qui s'est collé à ce préquel censé nous en apprendre davantage sur les extraterrestres qui ont décidé d'attaquer toute forme vivante qui fait du bruit. Ce principe fonctionne parfaitement dans les deux premiers opus. Les survivants y ont recours à tout un tas de stratagèmes pour berner les créatures que l'on voit alors furtivement.
Résistez à l'abri. Attendez d'autres instructions.
On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville.
On est tout seul.
Ce jour 1 commence par une mise en garde. Une ville comme New York est bruyante, jusqu'à 90 décibels, ce qui correspond à un cri permanent, nous dit-on. Une donnée incompatible avec ce qui s'abat du ciel sur la ville américaine. Mais avant que ces créatures n'apparaissent, le film nous emmène dans une petite clinique où des personnes sont en fin de vie. Alors il y a Samira, une poète qui a écrit sur son carnet « Pas maintenant ». Même si elle semble gravement malade, elle est en sursis. Et ce dont elle rêve, c'est une pizza à Harlem. Alors même si elle ne se montre dure avec ses semblables, elle s'accroche à la vie. Et au détour d'une virée à New York, eh bien, tout va basculer, l'attaque est soudaine. Ce que nous avons vu auparavant était un pré-générique, le film commence vraiment maintenant. La ville vit le chaos, mais très vite les hommes s'organisent, comprennent que pour rester en vie, il ne faut pas faire de bruit. Les autorités avertissent, ne pas faire de bruit donc, et fuir par le port sur un bateau, car ces créatures qui nous arrivent de l'espace, tout affreuses et impitoyables qu'elles paraissent, sont de piètres nageuses.
C'est la fin des temps, la fin de l'humanité, la fin de New York, la fin de tout.
Comme n'importe quel film apocalyptique, Sans un bruit montre son lot de sacrifices et de victimes, mais ce n'est pas que cela. Je remercie le spectateur assis derrière moi qui, dès que le silence s'est à peu près installé dans le film, a cessé de piocher dans son sac à pop-corn. Et comme pour le 1, la donnée sonore donc a son importance, plus exactement le silence qu'il faut s'imposer, sauf quand la terreur s'y met et que les créatures réagissent. Cependant, Sans un bruit va sans cesse osciller entre le film d'horreur et post-apocalyptique et le thriller sentimental, on pourrait l'appeler comme ça. Sur son chemin, toujours accompagné par son chat, Samira, qu'on n'a jamais quitté, va rencontrer un homme qui sort d'une bouche de métro inondée. Un jeune homme qui a peur, hein, qui l'exprime, et qui comprend également ce que vit Samira, qui s'éteint à petit feu, alors même que l'espèce humaine est menacée. Face à ce qui lie ces deux personnages, les créatures sont presque anecdotiques, hein, même si la réalisation nous gratifie de plusieurs gros plans permettant d'aller jusqu'à contempler leurs amygdales. Samira sait la fin inéluctable, elle doit s'apaiser, mais avant cela, elle doit aussi aider son compagnon de survie à s'échapper. échapper. Le spectaculaire s'efface au prix des sentiments. Le mélange des genres est un peu hasardeux. Alors, les amateurs de monstres pourront rester un peu sur leur faim. Ceux qui cherchent les dialogues aussi, hein, parce que dans un tel monde, on n'a que peu d'occasion de se parler. Le film n'exploite d'ailleurs pas suffisamment cette veine, comme s'il s'adressait à ceux qui avaient bien compris les règles exposées dans le film 1 et 2. Les deux premiers films fonctionnaient à l'économie, restreignaient les personnages. Là encore, le récit alors se resserre sur une petite humanité, laissant les espoirs d'une fuite envisageable, mais la mort quelque peu inéluctable. Manque peut-être un peu de rythme et d'idées claires, hein, de mise en scène pour se rapprocher des précédents films. Ce Sans bruit jour 1 est en salle depuis le 27 juin et je vous recommande de le voir en IMAX si vous avez le choix. L'amitié est-elle un rempart contre le racisme? C'est l'une des questions soulevées par Pourquoi tu souris?
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Pourquoi tu souris?
Les co-réalisatrices de Pourquoi tu souris avaient déjà collaboré ensemble, d'abord sur un documentaire intitulé Cash, où Christine Paillard avait filmé des ateliers d'impro donnés par Tchad Chenouga dans le centre d'accueil de SDF de Nanterre, puis sur le film Le Principal l'année dernière, une réalisation dans le genre comédie dramatique. Ils reprennent un peu de ces deux formules pour ce nouveau film social. Deux des comiques les plus en vogue du moment, hein, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, jouent au SDF démuni dans cette comédie non dénuée de tragique, hein, où ils se jouent d'une pauvre femme, une humanitaire au grand cœur, incarnée par Emmanuelle De Vos, hein, qui œuvre quant à elle dans une association venant en aide aux migrants. Le personnage de Wheezy, Jean-Pascal Zadi, est en galère. Il arrive tout juste à Bordeaux, où il compte trouver un travail. C'est là qu'il croise la route de Marina, Emmanuelle De Vos. Pour se faire héberger chez elle, hein, alors qu'il est à la rue, il prétend être un sans-papier en se parant d'un accent ivoirien bien marqué. Un soir, il rencontre Jérôme, Raphaël Quenard, lui aussi à la rue, expulsé par les huissiers après le décès de sa mère. Malgré les propos racistes de ce dernier et sa copophobie, donc la peur du surmenage lié au travail, Wheezy accepte de cacher pour une nuit Jérôme dans le sous-sol de Marina. Mais voilà, flairant le bon plan, Jérôme est bien décidé à rester, d'autant qu'il découvre assez vite la combine de Wheezy pour profiter de l'hospitalité de Marina.
Je me prénomme Wheezy. Ça veut dire lumière, qui brille comme un soleil, quoi.
Moi, je suis considéré comme handicapé, ça fait 5 ans. Là.
Ah.
Tout ce qui est fort, travail et tout, c'est un peu... la phobie, c'est la copophobie, quoi.
Et ça fait longtemps que t'es là?
Oh, 2 mois, hein. Mais je te cache pas que je suis ric-rac. Merci, Marina, je suis fan de toi. J'arrive. Allez, je te fais des poutou-poutou, hein.
C'est pas vu, la soupe populaire, tous les deux.
Bonne soirée, monsieur, hein. Bonne chance.
Tu vas me laisser tout seul?
Je ne peux pas vous loger tous les deux, j'ai que la chambre de mon fils.
Ah, il y a une hiérarchie dans la détresse, c'est ça?
On a affaire dans Pourquoi tu souris à un véritable buddy movie, littéralement film de copain, un genre filmique apparu au début des années 80, qui s'articule généralement autour d'un duo de héros avec deux personnalités très différentes. Initialement, on retrouvait plutôt des policiers obligés de faire équipe malgré eux, puis nouant peu à peu une amitié solide. On pense notamment à la grande référence du genre, le film 48 heures avec Nick Nolte en vieux flic blanc pas commode et son acolyte Eddie Murphy, un petit truand noir m'as-tu vu. Le contraste entre les deux personnages sert toujours dans ces films de ressort comique supplémentaire, voire central. Alors c'est évidemment le cas dans Pourquoi tu souris, avec une inversion notable hein, par rapport à l'exemple de 48 heures. Le petit blanc râleur qui cabotine n'est autre que Raphaël Quenard, qui fait du Raphaël Quenard avec les joutes verbales qu'on lui connaît et ce sens du verbe, cette attitude scénique presque tout droit héritée de Fabrice Luchini. Wheezy, quant à lui, est tout le contraire de son camarade d'infortune, hein, grand noir et malgré les épreuves, il continue de sourire. Alors on connaît à l'acteur qui l'incarne, Jean-Pascal Zadi, son capital sympathie à l'écran, ce qui est confirmé dans Pourquoi tu souris, où il dote Wheezy de beaucoup d'empathie, d'altruisme et d'un caractère majestueux et solaire. Bon, il ferait presque un petit peu penser à Mahershala Ali dans le Green Book de Peter Farrelly. Dans tous les cas, les pistes du buddy movie se brouillent assez rapidement dans le film, hein, qui est scénaristiquement très riche et offre de nombreux rebondissements en bousculant les attentes du spectateur. D'un duo de héros, on passe à un trio, puis vient une rencontre romantique, aussi délirante que déchirante, entre le personnage d'Emily et celui de Wheezy. Mais je dirais qu'une sortie de route est particulièrement inattendue et jubilatoire. C'est la rencontre avec Rita, une vieille dame incarnée par l'impressionnante Judith Magre, richissime, infirme, crue et sans filtre. Choc culturel et choc des milieux sociaux garantis.
C'est quoi cet accent là?
Je me suis dit, peut-être elle va m'aider si je prends l'accent ivoirien.
Un sans-papier avec des papiers.
J'héberge un sans-papier et un handicapé.
Que ce soit tous les deux, soit personne.
Et là, je les aide à monter un petit business de bricolage.
Je suis perdu, je vais pas être au four au moulin.
Ils ont l'air lourdeaux comme ça, mais au fond, ils sont très généreux.
S'il y a un domaine dans lequel tu peux cartonner, c'est celui-là.
Je vends pas mon corps.
On fait 50-50.
Si à mon sens, certains des moments les plus touchants du film et quelques bijoux de mise en scène se nichent dans les incroyables dialogues et scènes baroques chez la vieille Rita, avec Jérôme et Wheezy, c'est bien parce que tous les personnages du film sont habités d'une profonde tristesse, palpable. Il et elle sont tous des âmes perdues, aux drames enfouis, qu'ils soient pieds nickelés ou excessivement riches. Leurs carapaces respectives à tous se fissurent à mesure que leur solitude s'estompe. La cruauté de Rita, le passé d'Emily et son impasse, le racisme subi par Wheezy, la distance entre Marina et son fils, le deuil de Jérôme et sa souffrance à ne pas pouvoir travailler. La force du film réside bien là, dans cette capitalisation sur un éventail de personnages riches et nuancés, planqués derrière des masques de solitude. On craint un peu, au début du film, que celui-ci ne surfe sur la grande idée reçue et largement disséminée par l'extrême droite, que les Français de nationalité seraient, dans l'Hexagone, moins privilégiés, moins aidés que les migrants et étrangers, ce pourquoi Wheezy se fait passer pour l'un d'entre eux. Sur ce sous-texte initial s'appuient les sorties racistes de Jérôme, jamais relevées par Wheezy, le principal concerné, et on peine donc à rire franchement au début du film. Même s'il dépolitise la pauvreté et le racisme, les Coréales infusent ces thématiques lourdes de beaucoup d'humour grâce à leur écriture et à la profondeur des personnages. Pourquoi tu souris ? La question que pose sans cesse Jérôme à Wheezy, il nous la pose à nous aussi. Malgré tout, c'est bien ce que le film parvient à nous faire esquisser. Un sourire, rictus qui après tout se situe quelque part entre le rire et la grimace.
Pourquoi tu souris ? C'est une comédie en début d'été en salle depuis le 3 juillet. Un assistant à la lourde tâche de réaliser un film d'auteur à Nollywood où les films commerciaux pullulent. Nous parlons de Pompo de cinéphile.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Salut à tous, Pompo est dans la place.
L'affiche française l'annonce clairement. Prêt pour la fête du cinéma. Alors si on est en droit de se demander par quel miracle le film de Takayashi Yaro, qui date de 2021, sort à la mi-2024 sur nos écrans, une chose est sûre, le choix de la date est excellent. Car quoi de mieux que la fête du cinéma pour distribuer un film qui justement célèbre le cinéma par tous les ports et surtout sur tous ses aspects. Pompo a beau être une jeune femme, alors on a même tendance à penser jeune fille vu les graphismes utilisés pour la représenter, elle n'en est pas moins l'une des productrices les plus influentes et courageuses de Nollywood, la capitale mondiale du cinéma. Alors bien qu'elle soit connue surtout pour ses films de série B, Pompo dit un jour à son assistant Jean, ou Jen, très gros cinéphile mais personnage profondément angoissé et peu sûr de lui, qu'elle l'a choisi pour réaliser son prochain scénario. Alors avantage ou problème, ce scénario dévide de la ligne conductrice de Pompo en cela que c'est un drame intimiste et délicat qui met en scène un génie créatif vieillissant et tourmenté. Alors pour rajouter du piment à cette situation déjà complexe, Pompo a choisi dans le rôle principal un acteur légendaire mais du coup compliqué à gérer, le grand Martin Braddock. Jean, quant à lui, a réussi à convaincre Pompo d'engager une jeune actrice inconnue pour lui faire face, en plus de potentiellement devenir la future grande star de demain si le film est le succès espéré. Mais alors que la production se dirige vers le chaos, Jean pourra-t-il relever le défi de Pompo et réussir en tant que réalisateur pour la première fois ? Sera-t-il à la hauteur non seulement des exigences de Pompo, mais aussi des siennes, lui qui a toujours voulu devenir un grand metteur en scène et qui ne se voit pas échouer face à une aussi belle, même si complexe, opportunité de marquer l'histoire du 7e art qu'il aime et chérit tant.
Ça fait maintenant un an que je suis l'assistant de Pompo.
Je suis désolé.
Que j'observe la création de ces films.
Je crée tout un univers dans lequel j'entraîne le spectateur.
Mais elle n'est pas là par hasard. Elle connaît tous les ressorts du cinéma.
Alors en premier lieu, il est bon de se rendre compte que pour délivrer un tel film, il fallait un amoureux du cinéma à l'image de Jean. Takayuki Yaro n'est pas un débutant. Si c'est principalement illustré dans des séries animées, il a été l'assistant du génie Satoshi Kon sur le chef-d'œuvre Millennium Actress en 2001. Millennium Actress était déjà un film parlant de cinéma, de sa puissance, son impact et sa majesté en suivant une équipe de télévision partie interviewer une grande actrice au crépuscule de sa vie, interview qui sera l'occasion de traverser une vie de cinéma, mais aussi une vie intime, deux facettes d'une même pièce qui vont nourrir une magnifique histoire d'amour contrarié, d'art et d'histoire du XXe siècle. Pompo de cinéphile n'a pas la même portée philosophique et la même sensibilité que celle du très regretté Satoshi Kon, mais va jouer de façon tout aussi impactante sur d'autres aspects de l'amour que l'on peut porter au cinéma et à son industrie. Pompose de cinéphile fait le choix, pas forcément évident, hein, de nous plonger littéralement dans les coulisses du cinéma et de manière très pointue. Hein. En suivant toutes les étapes de la création d'un film, c'est tout un pan obscur de l'industrie des rêves qui s'ouvre aux yeux du grand public, hein, cette partie dont il n'a jamais accès avec ses choix artistiques, ses luttes internes, ses joies, ses peines. Car avant d'arriver à un film fini, il faut caster, puis répéter, puis tourner, ajuster ses plans, dans tous les sens du terme, suivant les événements qui arrivent, et enfin monter et boucler le film pour qu'il soit diffusable. Mais à quel moment un choix de prise de vue ou de montage devient pertinent ou risque de plomber toute l'entreprise ? Et si l'intention de jeu n'est pas bonne ou au contraire éclaire d'une manière inédite la scène prévue, comment s'impose-t-on face à un producteur lorsque l'on lutte pour la réussite artistique d'une œuvre et que l'on doit justifier des jours de tournage en plus, des coupes ou des rajouts dans le scénario pourtant validé en amont?
Je suis Martin Braddock, le plus grand acteur du monde. Il va souvent m'arriver de lancer des idées dans le feu de l'action.
Je suis vraiment impressionné par la qualité de l'écriture, surtout quand on tient compte du fait que vous êtes une productrice de films de série B.
Merci, oui, je sais, je sais. Attends, je rêve ou t'es en train de me traiter de productrice bas de gamme ?
Alors, le but de Pompeau, The Cinéphile, est de faire usage d'une pédagogie claire mais rigoureuse pour immerger le grand public face à toutes ces considérations et lui faire comprendre qu'une grande œuvre est le fruit d'un travail acharné, parfois au choix cornélien et toujours harassant. Le film est finement pensé, jusque dans ses moindres détails. Pompeau signale qu'elle pense que les bons films ne doivent pas dépasser 90 minutes, soit 1h30, pour bien raconter leur histoire. Et Pompeau, The Cinéphile, dure précisément 90 minutes, réglé comme du papier à musique. Alors, moi, pour moi, le gros problème du film, ce serait surtout ses graphismes, qui sont très kawaii, qui desservent un petit peu le ton presque plus adulte. Mais dans le fond, que j'apprécie beaucoup, on est plus dans la démarche d'un Steven Spielberg et d'un The Fableman qui nous montre comment on arrive à lutter contre les problèmes pour faire un vrai grand film. Donc c'est intéressant, mais voilà, les graphismes ne seront pas pour tout le monde.
C'est un film qui vient du Japon.
Oui, disons qu'on n'est pas dans du Momoroshi, là. On n'est vraiment, on n'est pas dans du Akira, on est plus effectivement vers du Pokémon ou du Naruto. Et ce qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup moins visuellement. Mais encore une fois, le fond fait vraiment toute l'affaire.
Pompeau de Cinéphile est en salle depuis le 3 juillet. Alors avant, Manu, que tu nous parles des films que tu as vus et qui sortent ce mois de juillet, eh bien, moi, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui va à sortir pendant cet été.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Le Comte de Monte-Cristo est sorti à la fin du mois de juin et compte bien squatter les écrans un petit moment, mais d'autres grosses productions sont attendues pour les petits et les grands. Les Mignons reviennent avec Moi, Moche et Méchant 4 sur l'écran le 3 juillet. Un petit dernier fait son apparition, Gru Junior, mais des méchants arrivent aussi. Le 10 juillet sort To the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, un film qui raconte les coulisses et les enjeux de l'alunissage historique organisé par la NASA avec la mission Apollo 11. Le 19 juillet, place à la catastrophe avec Twister, qui est la suite du film Tornade, sorti en 1996, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un film catastrophe nous propulsant au cœur de Tornade. Alors oui, c'est au pluriel. Le 26 juillet sort Deadpool et Wolverine, qui mêle donc un gros comique dur à cuire avec un taiseux souvent limite nervous breakdown, un film Marvel qui ressemblera sans doute à bien d'autres. Le 31 juillet sort un nouvel opus de la série Largo Winch, après deux premiers volets sortis en 2008 et 2011. Alors cet opus est réalisé par Olivier Massé de Passe, donc qui vient du cinéma d'auteur. Moi, j'ai vu aucun film de lui. Bon, voilà. Le 7 août, c'est Night Shyamalan qui se rappelle à notre souvenir avec Trap, un tueur en série surnommé The Butcher. Par la presse, rejoint sa fille Riley au concert de la pop star Lady Raven, mais la salle est bouclée par la police. Le 14 août sort Alien Romulus, le 9e film de la saga Alien, confié à Fede Alvarez, qui avait remis au goût du jour Evil Dead. Il y aura aussi City of Darkness, projeté hors compétition à Cannes, une histoire qui nous emmène dans un quartier de Hong Kong dans les années 80 où il n'y a plus de loi. Tous les coups de kung-fu sont donc permis. Le 21 août, ne manquez pas Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, prix du jury et prix d'interprétation féminine à Cannes. Une comédie musicale captivante avec un beau sujet, réalisé de belle manière avec de solides interprètes. Une palme d'or n'aurait pas été une injure. Un film peut-être trop accessible pour le jury.
Et le premier chapitre de l'immense saga que prépare Kevin Costner en plusieurs volumes, là, Horizon, qui sort donc le 3 juillet, c'est déjà 3h30 heures de film, ce qui est pas mal pour un début.
Et je l'avais oublié. Maintenant, nous parlons des films qui sortent en juillet et que tu as vu, Manu.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Alors j'avais une intro un tout petit peu longue, enfin pas longue, mais donc je vais rentrer dans le vif du sujet, justement parler d'un blockbuster que tu n'as pas évoqué, hein, qui a quand même coûté près de 100 millions d'euros, hein, Creation of the Gods de Wershan, donc super production chinoise, qui était sortie simplement une soirée, un dimanche simplement, dans les salles et notamment dans les Gaumont en février en fait. Un peu comme pour Godzilla Minus One, hein, les distributeurs ont décidé de le sortir sur une durée plus conséquente. Hein, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Plus digeste que prévu, hein, délesté d'une idéologie nationaliste, Creation of the Gods, adaptation d'une légende locale contre l'ascension du tyran Yin Shu, qui tente d'accéder au trône du royaume des Chang avec l'aide de sa maîtresse, la belle et mystérieuse Su Daji, sous l'emprise d'un démon. Heureusement, le sage taoïste Yang Zia et le guerrier Jifa s'allient pour combattre le démon. Alors le film de Wershan est à l'image de sa scène d'action d'ouverture spectaculaire et interminable, une œuvre vraiment épuisante mais d'une générosité incroyable. Alors la laideur des effets numériques, c'est horrible, mais moi j'ai adoré quelque part. Le côté brouillon du récit et la durée excessive du métrage qui fait pas loin de 3 heures, hein, n'empêche pas de prendre vraiment un plaisir devant ce divertissement exotique, décomplexé et souvent très inventif, hein, en attendant une seconde partie qui me tarde donc de voir.
Il faut croire que j'ai eu le malheur de réveiller un animal sauvage.
Quitte, Zhao Ge, tu seras le roi de la Terre.
Que tu sois le fils d'un seigneur ou d'un roi, peu importe.
C'est vous qui m'avez donné la vie. À présent, je vous la rends!
Je ne l'ai pas dit, hein, le film sort le 10 juillet. Alors tout comme, alors je vais passer très vite, hein, sur le décevant Only the River Flows de Chun Jun Wei, polar poisseux, marqué par une dimension allégorique sur la Chine, mais qui singe, sans jamais parvenir à les égaler, des films comme Memories of Murder ou Une pluie sans fin. Alors, ça me paraît évident qu'il ne les égale pas, mais cette traque d'un serial killer dans une atmosphère pluvieuse de fin du monde emprunte trop de pistes pour convaincre. Hein. Alors, l'intrigue se délite, alors pour ne plus raconter grand-chose. Allez, encore un film asiatique, et cette fois-ci sort le 17 juillet, alors venu de Hong Kong et non de Chine, Mad Fate, est un polar déjanté et onirique produit par Johnny To et réalisé par Soi Chiang, auteur de Limbo, qui était sorti à la même date à peu près l'an dernier, début mi-juillet. Hein. Alors sur fond de mysticisme et de surnaturel, cette enquête autour d'un serial killer alors passionne durant sa première heure assez impressionnante, un festival de sons et de lumière, hein, qui évoque même parfois le meilleur de Wong Kar-wai. Alors c'est bourré de cadrages insolites, de morceaux de bravoure filmés dans des décors baroques. Hélas, le film se perd ensuite dans un labyrinthe mental confus, dans une dernière ligne droite décevante. Hein. Alors, une petite sortie de route pour un thriller plus que recommandable, hein, drôle et souvent très noir.
Et ce film, il sort quand ?
Il sort donc le 17 juillet. Et un autre polar en fait qui sort aussi le 17 juillet, mais cette fois venu de France, Karmapolis, qui n'est bizarrement pas si éloigné de Mad Fate, hein, par son approche je dirais biaisée du genre, sa poésie urbaine et son récit fragmenté plus sensitif qu'explicatif. Alors cette série B désargentée convoquant donc les fantômes de David Lynch, de Samuel Fuller, mais aussi plus près de nous, en France, hein, Juliette Berthaud prend racine dans un quartier parisien, hein, de Château Rouge, théâtre aux coutures artificielles séduisantes où déambulent des âmes en peine, hein, figure mythologique du film noir entre flics déchus et gangsters à la petite semaine. Alors le film raconte le destin d'Angelo, un policier idéaliste, hein, qui veut changer de métier. Il se jette corps et âme dans les histoires de son quartier afin de rééquilibrer son karma. Voilà. Plus qu'un polar, finalement, Karmapolis est une fable existentielle, hein, sur la quête de rédemption d'un homme en perdition, alors non dénué de poésie et d'humour. Sinon, le film est aussi très beau, très bien mis en scène, et surtout, c'est un second long métrage plutôt réjouissant de Julien Paolini, hein, après un premier long qui était décevant et qui s'appelait Amaré Amaro.
Et puis, il est avec Alexis Mananti, qui jouait le sale flic dans Les Misérables.
Ah, il est excellent dedans, d'ailleurs.
Mais hein. Là, il joue une sorte de dealer, je crois.
Oui, ouais. C'est ça.
Dans le quartier, on pourrait bosser ensemble. Les gars comme moi, ils ont besoin de gars comme toi. Les gars comme toi, ils ont besoin de gars comme moi. Toi, t'es... Je suis un bienfaiteur. Je suis en service, tu vois. T'es un dealer. Alors déjà, de 1, je deal pas. Et de 2, tu gardes ta morale pour toi. Ça c'est un dangereux, tu sais.
Bon, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais sur le terrain, il n'y a personne qui est épargné. Même pas un idéaliste comme toi. Fais attention à pas en foutre partout.
On va faire exploser son karma.
Mais on entend que la musique n'est pas signée Tom York.
Oui, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est police au sens grec du mot cité.
Exactement. Ouais. Quelques mois après Wake Up, exploité début mai, hein, le collectif RKSS, oui, c'est un collectif de trois réalisateurs, hein, Anouk Whistle, son frère, je crois, Johan Carl Whistle, et François Simard, récidive, bon, avec le sympathique, mais quand même navrant We Are Zombies, qui semble débarquer avec 20 ans de retard, hein, dans une ville infestée de zombies non cannibales, trois escrocs, alors grâce au trafic, hein, combattent une méga corporation au dessin malfaisant pour sauver leur grand-mère kidnappée. Alors, dit comme ça, le film fait, enfin, je veux pas dire qu'il fait rêver, mais laisse espérer au moins une comédie horrifique un peu déjantée. Alors hélas, faute d'un budget trop faible et d'une mise en scène alors proche d'une sitcom, hein, We Are Zombies s'effondre au bout de 10 minutes, après un prologue amusant, hein, ne retrouvant jamais le mordant, bah, du modèle, d'un des modèles indétrônables qui est donc Shaun of the Dead. Hein. Donc voilà, c'est un peu une série Z potache qui est quand même assez ennuyeuse et qui ne dure pourtant qu'une heure et quart.
Messieurs, dames, c'est le retour des morts. La population a fait un bond vertigineux de 175%.
Ils ne se nourrissent pas de chair humaine. Ils sont juste là. Il faut sauver grand-mère.
Enfin, pour finir sur une note plus positive, hein, je vous conseille un autre film québécois, parce que j'avais oublié le We Are Zombies et québécois, mélange canadien-québécois, inégal mais intéressant, qui s'appelle donc Comme le feu de Philippe Lesage, à qui l'on devait l'incroyable Les démons. Alors, dans un premier temps, ce film choral prend des allures de feel-good movie, hein, malgré une ouverture anxiogène. Un groupe d'amis se retrouve dans un chalet au bord du lac. Hein. L'atmosphère bienveillante et chaleureuse se dégrade rapidement pour se muer en une sorte de thriller, on va dire, un peu existentiel sur la domination, vue à travers le regard d'un jeune homme, alors doublé d'un portrait d'un artiste égocentrique et toxique, alors génialement interprété par Arié Vorsalter, qui jouait donc dans Le procès Goldman. Hein. Alors le film est juste beaucoup trop long, hein, 2h45, se dilatant alors dans une seconde partie au rebondissement artificiel. Mais ça reste une expérience assez dérangeante et pas très agréable. Donc les deux films, là, sortent le 31 juillet.
Merci en tout cas pour ce petit tour de ce qui sort en juillet et pas forcément donc parmi les grosses copies. On termine cette dernière émission de la saison en parlant de ce qui vous attend au niveau des festivals de cinéma cet été.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors vous connaissez sûrement les festivals de cinéma qui se déroulent autour de vous, parce que vous en êtes peut-être des habitués, mais peut-être que vous connaissez moins les festivals de cinéma qui se déroulent bien là où vous allez peut-être passer quelques jours de vacances. Et bien je vais essayer de vous aider à vous alimenter en films. Il y a le Festival international du film de La Rochelle qui se termine, hein, c'est jusqu'au 7 juillet. Donc on va passer tout de suite au festival Résistance qui se déroule du 5 au 13 juillet à Foix en Ariège. C'est un vieux festival avec plusieurs thématiques. À court de justice, l'addiction s'il vous plaît avec un jeu de mots au rendez-vous et puis la mécanique de l'oubli, je crois qu'il y en a encore d'autres. Voilà, très bon festival. Si vous changez de département, vous traversez les montagnes, eh bien vous arrivez à Prades dans les Pyrénées-Orientales du 19 au 25 juillet. C'est un festival dédié aux films d'auteur et il y a des invités, notamment Stephen Frears, Yolande Moreau et Lucie Borletot, donc ça peut être intéressant. Du 9 au 14 juillet à Pauillac, Médoc, c'est le festival Les Vendanges du 7e art, c'est la 9e édition et ils ont réussi à convaincre Michèle Larocque de venir puisqu'elle est présidente. Voilà. Le festival du cinéma de Douarnenez se déroule du 17 au 24 août avec une thématique peuple du Brésil. Il y a des films documentaires, des rencontres, des concerts. On quitte la Bretagne pour aller dans le Lot avec les 40e rencontres du cinéma de Jindou. Oui, 40e, donc ce sont des vieilles rencontres. Et il y aura l'occasion de faire une belle rencontre puisque cette année, l'invité d'honneur, c'est Mathieu Amalric et il y aura une rétrospective qui lui sera consacrée. Les rencontres de Jindou se déroulent du 17 au 24 août, c'est donc dans le Lot. Un peu plus loin, en Ardèche, un peu plus au sud on va dire, ce sont les états généraux du film documentaire qui se déroulent à Lussas du 18 au 24 août. Et puis après, si par exemple vous remontez, ou si vous avez décidé eh bien, de passer vos vacances en Charente, pourquoi pas, Eh bien, il vous attend le Festival du film francophone d'Angoulême. C'est du 27 août au 1er septembre. On peut aussi faire un clin d'œil aux rencontres d'Arles. Alors, l'an dernier, j'en avais parlé parce qu'il y avait un gros volet consacré au cinéma, avec la présence notamment de Wim Wenders. Cette année, c'est l'actrice Vimala Pons qui présente avec un photographe vietnamien un projet mettant en avant le lien entre corps-action et femme-corps. Avant tout, c'est un festival dédié à la photographie, mais il y a toujours des petits passages vers le cinéma. C'est du 1er juillet au 29 septembre et c'est à Arles.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
C'était la dernière émission de cette saison. Les plus chanceux d'entre vous auront le droit à une version estivale de Cinérama qui va vous parler des films qui ont mis en image l'avenir dans les années 2020, le cinéma fantastique français féminin et le générique, mais au début du film. Si avec ça, vous ne passez pas un bel été, eh bien, c'est à n'y rien comprendre.